Donc, désarçonnement, pose ses micros dans la médiathèque, en fait dans l'atrium de Tassin-la-Demi-Lune, tout près de Lyon. Et devant ses micros, Jean-Robert Sedano, qui est un des, j'ose pas dire un des vétérans, mais presque de ce qu'il appelle les arts interactifs.
Oui, c'est bien résumé, effectivement. Vétéran, parce que ça fait effectivement pas mal d'années, hein. Peut-être une trentaine d'années que moi et Solveig de Hory, ma compagne.
Oui, je l'oublie.
Oui, est-ce que tu l'as pas
c'est
vu?
C'est un duo.
C'est un duo, et depuis les années 1980, on a créé divers environnements sonores et jeux musicaux qui sont interactifs. Il y a une trentaine d'années, le mot interactif n'existait absolument pas. C'est venu au fil du temps
Et des technologies.
Et des technologies. Mais pour revenir en arrière et dire comment nous, on a commencé dans les années 80, eh bien, il n'y avait absolument pas d'ordinateur. Nos premiers espaces sonores, qu'on avait appelés à l'époque chambre à musique, réagissaient au mouvement du public dans des salles. Et il n'y avait donc absolument pas de calculateur, pas d'ordinateur. C'était de l'électronique à l'époque, des synthétiseurs analogiques qui étaient couplés à des cellules photoélectriques qui, mesurant la lumière, permettaient de faire varier les sons en fonction du passage du public. On l'avait également couplé avec des projecteurs à diapositives, et ce qui permettait d'obtenir un environnement total, visuel et sonore.
Alors que le multimédia aussi était naissant.
Oui, exactement. Donc bon, ça c'était il y a fort longtemps. La première motivation, c'est que je crois que nous sommes des joueurs. Nous sommes des joueurs et puis des chercheurs aussi. Ce qui fait que le monde sonore associé au jeu, ça permet beaucoup de choses. On voit bien d'ailleurs les développements actuels de ce genre d'idées. Donc là, à Tassin, on présente une création assez récente qui s'appelle les moulins à parole et qui permettent de jouer avec le langage. Le langage, c'est du son, hein.
Oui.
C'est parfois du bruit.
Ça peut être.
C'est parfois aussi du sens. Éventuellement, ça peut être musical aussi. Donc tous ces ingrédients, bon, on les retrouve dans les moulins à parole, et on peut jouer avec en fonction de la vitesse de la manivelle de chacun des moulins. Chaque moulin a un thème particulier. Alors, il y en a un, par exemple, qui s'amuse avec la novlangue des arts contemporains et des discours parfois abscons et très longs qu'on peut rencontrer dans les présentations des expositions d'art contemporain spécifiquement.
Le grand conceptuel, là.
Voilà, qui d'ailleurs mérite beaucoup de textes, souvent pour peu d'œuvres. Bon, voilà, ça c'est pour un. Il y en a un autre qu'on a créé spécialement pour la semaine gourmande.
Voilà, parce que c'est le thème de la manifestation dans laquelle sont ces moulins.
Voilà. Et ce moulin gourmand, c'est un hachoir à viande. Hachoir à viande qui... Il y a pas mal de bruit dans cette salle. Hein,
oui, on est dans un environnement sonore.
Voilà. Donc le hachoir à viande, avant de parler de gourmandise, il parlait de mai 68 et moulinait des slogans. On l'a recyclé parce que ça y est, l'anniversaire de mai 68 est terminé. Et donc là...
Et on a échappé à l'autre.
Voilà. Et donc on a... Qu'est-ce qu'il fabrique là-bas, hein, on se demande.
Un transport de table.
Un transport de table, j'ai l'impression qu'il fait tourner les tables. Hein. Bon. Et donc sur le thème de la gourmandise, ben, on a des recettes, des idées de ce que les gens aiment, des extraits de François Rabelais qui parle de la bouffe.
Incontournable et qui fut lyonnais dans son temps.
Et Montpellierin aussi, puisque médecin.
Oui.
Voilà. Et puis, il a une langue pas croyable. Mmh. Donc, ça, c'est un plaisir de jouer avec les mots de Rabelais dans le hachoir à viande. Voilà.
D'ailleurs, ce qu'on entend en bruit de fond, ce son, c'était un hachoir.
Voilà.
Enfin, un moulin, en tout cas.
Un moulin, voilà. D'autres disent des poèmes, d'autres des textes érotiques. Mais ceux-là, on les écoute avec des écouteurs. Un dernier qui se trouve dans la mairie, c'est une essoreuse à salade qui, elle, diffuse des informations. Alors évidemment, l'association Salade Information nous paraissait tout à fait judicieux. Et ce sont des informations véridiques qui sont diffusées, mais par contre qui sont, à mon avis, totalement incroyables, très drôles. Mmh. Et donc, l'essoreuse à salade contient toutes sortes d'informations, on dit, dans leur jus, ou bien essorées.
Voilà, et puis, qui plus est, mise bout à bout et décontextualisée, ça donne parfois des choses assez surprenantes.
Oui. Donc on peut s'amuser à écouter ces textes, et puis aussi, dès qu'on arrête la manivelle, ça s'arrête. Mm. On n'est pas victime d'un flot continu, et c'est ça que je regrette souvent en écoutant la radio ou la télévision, c'est ce débit continu qui finit par hypnotiser l'écoutant, et finalement...
Trop de
sens délavé produit aussi une forme de lavage de l'esprit.
On perd la maîtrise de la chose.
Voilà. Donc, les moulins à parole, c'est un peu ça.
Alors, les moulins à parole sont une petite partie de la production que j'ai pu voir ici et là, avec beaucoup d'autres choses, de jeux, de...
Oui, la dernière, c'est une autre installation vocale qui s'appelle les roues du chant. Ce sont des roues de bicyclette montées sur des socles qui chantent et qui sont aussi un hommage au vieux Marcel Duchamp en faisant chanter ces roues de bicyclette. Les hauteurs changent et s'accordent en fonction de la vitesse des roues, par exemple. Mais d'autres installations... comme par exemple le cube, qui forme un objet assez monumental. C'est un cube de 3 mètres de côté et qui produit des sons quand on touche les formes qui sont gravées sur les parois pour amener une production sonore qui était piochée un peu partout sur le globe. Voilà. Donc là, c'est une installation sonore tactile. Concept qui est très en vogue de nos jours, avec les arrivées des téléphones où il suffit d'appuyer sur l'écran, toutes sortes de systèmes tactiles, sonores se développent actuellement.
Oui, c'est vrai. Et on n'est qu'au début de ces technologies.
On est qu'au début, oui. Bon. Donc le cube, par exemple, ça a été créé en 1999. Et il continue à tourner, à voyager de ci, de là.
Moi, il y en a une qui m'avait beaucoup frappé parce qu'elle avait une symbolique. Je trouve qu'elle a toujours une symbolique, d'ailleurs, non pas la même, mais elle a. C'est cette, une ronde.
Ah oui. Alors, la ronde, elle a été faite justement dans cet objectif, c'est de créer une ronde humaine. Bon, ça peut paraître naïf ou simpliste, mais je crois que c'est quand même un élément qu'on peut souhaiter. Et comment se compose cette installation ? Eh bien, c'est un octogone. Et à chaque angle de l'octogone se trouve un socle avec des mains en bronze. Et dans l'intervalle, on peut se placer et donner les mains à ces mains de bronze et produire ainsi un fragment d'un long arpège qui va se compléter si d'autres joueurs viennent s'intercaler dans les espaces, dans la chaîne humaine, et produire une musique octophonique qui tourne. Et évidemment, le projet, c'était de créer quelque chose de fraternel.
Oui, l'image est très belle en tout cas de voir ça.
C'est, oui,
donner la main à des mains qui se relient.
Oui. Bon, c'était vraiment le but. Hein. D'autres installations, comme par exemple musique dans le noir, qui cette fois-ci utilise la vidéo. On l'utilise relativement peu parce que je trouve qu'il y a pléthore d'installations qui utilisent la vidéoprojection. Là, c'est la seule que nous utilisons. Et dans Musique dans le noir, en fait, c'est une forme de light painting, de peinture de lumière, qui est fabriquée par les visiteurs, munis d'objets lumineux. Ça peut être des lampes de poche, ça peut être des téléphones portables allumés, ça peut être des jouets lumineux. Et leur déplacement, les mouvements dans l'espace qu'ils peuvent faire avec leurs bras ou tout leur corps, va produire des images qu'ils vont pouvoir visualiser immédiatement sur un écran. Et ces images-là vont également produire un paysage sonore qui se développe en même temps que les gens se déplacent.
Il n'y a donc aucune limite à l'interactivité en 30 ans?
Je ne sais pas s'il y en a...
On n'a pas encore vu le bout de...
Je pense que la limite de l'interactivité viendra de sa banalisation. C'est-à-dire que c'est devenu assez courant de nos jours. Il y a une trentaine d'années, on se disait on est trop tôt, on est trop en avance. Et maintenant, c'est un peu le phénomène inverse, c'est-à-dire que tout devient interactif, les bornes à la SNCF sont interactives, les émissions de radio sont interactives. C'est un mot extrêmement galvaudé maintenant. Et donc la limite viendra du fait que ça va devenir tellement banal que ça va perdre son intérêt peut-être, un jour.
Peut-être qu'on va revenir à l'interactivité, je ne sais pas quelle interactivité,
je ne sais
du
pas.
Bouton poussoir.
C'en est une.
C'en est une.
C'en est une, c'est peut-être la plus primitive. C'est le jeu avec les technologies aussi qui devient un attrait très très fort. Et il y a encore beaucoup de choses à faire, je pense. Hein.
Oui, je pense que c'était une façon de dire qu'effectivement, il y avait, malgré 30 ans d'existence, Ludicart, puisque c'est le nom de votre association.
Exactement.
Encore de longs jours et de longues recherches.
J'espère. On a une particularité, c'est d'être totalement indépendant de toute structure officielle. On fonctionne de façon totalement autonome avec les financements qu'on trouve en vendant nos productions, en les louant plus exactement. Et donc ça nous donne une forme d'autonomie et à la fois une forme d'isolement. Parce que l'indépendance se paye par une forme de, je dis pas de mise à l'écart, mais une certaine forme de... On est un peu considéré dans ce milieu comme des bêtes curieuses, parfois qui peuvent subvenir totalement à leur créativité, à leur création, alors qu'en fait, c'est extrêmement difficile. Et je dis ça par rapport à d'autres structures qui bénéficient de fonds publics. Hein.
Oui.
Voilà.
Ludicart n'est pas forcément dans le grand réseau.
Dans le grand réseau.
Des galeries, des...
C'est exact. Alors, à propos de galeries, une partie des arts interactifs a essayé de se mettre dans le schéma des œuvres d'art, disons, ordinaires, en étant vendues. Et moi, c'est un aspect que je...
pose parfois d'énormes problèmes aux conservateurs.
Oui,
d'une part.
Oui, bien sûr. Mais moi, je n'aime pas cette façon d'approprier des objets qui peuvent virtuellement être utilisés par beaucoup de gens et qui peuvent aussi avoir une fonction sociale. Et dans la mesure où, par exemple, la Ronde utilise et propose au public un jeu que je considère comme extrêmement utile et positif, je trouverais ça tout à fait aberrant qu'un seul individu, un collectionneur, puisse l'acquérir.
Oui, c'est pour que ça reste dans un domaine
de la collectivité. Voilà. Et c'est pour ça que c'est une forme d'art qui peut être de gauche. Mmh. Alors que créer des œuvres, même interactives, qui vont être soumises au marché de l'art, à mon avis, elles sont déjà... Elles sont déjà bien mal parties. Hein.
Il y a effectivement des œuvres qui ne sont pas soumises et qui se font rattraper par le marché de l'art, mais bon, ça c'est encore un autre.
Oui, c'est encore un autre point de vue.
Elles rentrent dans un certain patrimoine.
Oui, si elles sont dans un musée exposées pour le public, pour un grand public, oui, là il n'y a pas de problème.
Mais
qu'elles atterrissent dans un coffre-fort, ça, c'est une autre chose.
Ce qu'on appelle les arseneurs sont encore dans les balbutiements de savoir où elles vont se placer ou ne pas se placer parfois. Oh,
exactement. Mais il y a des éléments qui permettent de dire que c'est un marché nouveau du point de vue du marché de l'art. Et donc, comme le marché est toujours à l'affût des nouveautés, il pourrait être facilement contaminé par cette forme de marchandisation.
Oui, on voit effectivement une éclosion de festivals, ce qui est parfois bien d'ailleurs, et parfois ça peut créer des marchés qui standardisent plus ou moins
qui peuvent standardiser une forme de création. Je pense pas, mais... C'est une nouvelle voie qui n'est pas encore totalement explorée. Mmh. Donc c'est pour ça qu'elle est encore...
Qu'elle est riche,
c'est tout à fait en devenir. On verra, l'avenir nous dira ce que deviendront les arts sonores.
on peut leur souhaiter longue vie quand même.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Et donc les prochains projets de... d'exposition.
Alors, le prochain projet d'exposition.
On ira à des choses plus matérielles.
Oui, alors une nouvelle version de Musique dans le noir que j'aimerais voir en utilisant cette fois-ci des tracés en 3D, en trois dimensions. C'est peut-être très amusant de visualiser des formes abstraites en 3D créées par les gens au moment où il les voit. Mmh. Et c'est aussi un travail très très plaisant au niveau de la fabrication pour la création d'espaces sonores, ce qu'on fait, quels sont les jeux qu'on pense, entre les différents échantillons sonores, leurs variations et le climat général qui s'en dégage.
Y compris dans la spatialisation du son.
Y compris dans la spatialisation du son.
Et du coup, l'image deviendrait aussi avec une profondeur.
Voilà. Donc ça peut être un jeu très, très intéressant. Mmh. Voilà, ça, c'est les prochaines pistes.
Bon, mais...
Que nous continuions tous.
Que nous continuions tous à...
à œuvrer dans ce domaine.
À en parler.
Voilà. Ouais.
Eh bien, merci Jean-Robert. Et puis... bonne route pour une autre exposition parisienne, je crois.
Exactement. Bon, et ben, merci Gilles. À une autre fois, peut-être qu'on se croisera de nouveau.
On se croise régulièrement.
Impossible. Elle a déjà 35 ans et elle est laide et bête. Rien n'est impossible à elle.
Lisa.
Oh,
j'aime bien le chocolat. Ce que j'aime bien, c'est quand il fait chaud, c'est l'antésite.
L'antésite, tu sais bien, c'est une boisson qui...
Quand elle est diluée dans l'eau, on peut croire que c'est de la bière.
Foie de tortue verte truffée.
Langouste.
À la Mexique.
Faisan de la Floride. Iguane, sauce Caraïbe, combo et chou palmiste.
Du lait. Thank you.
Qualifié d'un art post-minimal, l'économie de la relation indexicale s'est déplacée.
C'est donc par des opérations impliquant l'image et sa capacité à déterminer des modes de perception que s'amorce la prise en compte d'un nouveau paradigme, et c'est à partir de cette nouvelle configuration dans laquelle la relation indexicale de la présence se produit des phénomènes identiques, non par un éditorial, mais par une autre forme d'organisation,
celle se situant au sein de la relation
entre le sujet et son environnement.
Le poète étourdi.
Un tour de manivelle qu'on répète à l'envi.
De cette
histoire épique, vous fûtes le suppôt.
Que j'aime ce mouvement délicat du poignet.
J'ai vraiment bien aimé le film Coraline. Les vers tournent
hypnotiques sur un rythme endiablé.
Avant de basculer dans le puits de farine. Ce texte est si tendu qu'il m'a fait rigoler. C'est pour rire et pleurer, comme dans Charlie Chaplin. Mots qui sonnent pour vous,
à l'instant oublié.
À la fin de la sieste, on a l'humeur... badine.